يماك تري من داوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحريه يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطيه هاك الورد زيد الياسمين في مسيره سلميه على التغيير معولين
اليوم الشعبي ليبرالي ليبرالي الجيري
الشعب يلعب عشرة والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش عشرة سنين تدمر عشرة والو مازل مش بعتوش وبربي هذا المرة والو ناضى ما تفوتوش بلادي بكا وكدموع ميساج لقاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو عشرين وحنا صابرين
يا تزاير في البيت راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمي انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش نخسر
Liberé, 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 liberé. Bonsoir. Nous reprenons donc cette émission que nous avons déclinée en deux parties. Celle d'hier, donc, où nous avions parlé de Garage Bilad, de Talha Hamza et de ces dérives dont personne ne comprend quoi que ce soit, dont les experts ne comprennent rien du tout. Et là, nous allons parler du projet du siècle, le projet pharaonique de Monsieur Tebboune, dont d'ailleurs plus personne ne parle en ce moment, un peu comme s'ils étaient en train de l'abandonner et qu'ils se sont rendus compte entre-temps que c'était vraiment du délirium tremens. Alors, je vais recevoir donc le docteur Sidi Mennad Si Ahmed, climatologue, expert dans ces questions auprès de l'ONU, expert senior. Merci encore une fois, docteur Mennad, d'être avec nous.
Merci.
Merci. Alors, vous vouliez d'abord dire quelque chose au sujet de la première partie de cette émission, ce qui est Talha Hamza.
Oui, Talha Hamza, parce qu'il faut parler aussi de, non seulement de création d'emplois, etc., mais des bénéfices que va rapporter ce projet. En faisant
c'est
tous
le
les
but.
Calculs, oui, en faisant tous les calculs possibles et imaginables, à condition que tout aille bien, ce serait à peu près entre 120 et 130 millions de dollars par an pour les deux parties. La partie australienne, qu'on nous dit sera de 49%, là, les Australiens veulent renégocier leur partie à la faveur de la nouvelle loi sur les mines. Donc, ils lorgnent les 80%, mais ça, c'est un autre débat. Et 51% pour la partie algérienne. Sauf que la partie algérienne a fourni toutes les infrastructures, la route, le quai pour le port de Béjaïa, pour l'exportation. C'est pour vous dire que là aussi, c'est un projet de rente. On ne va rien faire du plomb et du zinc en Algérie. Ce sera pour l'exporter. Ça aussi, c'est de la rente pure et simple. Et en même temps, la route qui va mener jusqu'au port, toutes les infrastructures autour, un gaz bon marché, une électrification haute tension fournie par l'Algérie et les expropriations, c'est l'Algérie qui s'en occupe. Avec des avantages, des privilèges pour Terra Mine qu'on ne comprend pas. Exemption de taxes sur 10 ans, par exemple. Contraction d'un prêt auprès des banques algériennes. Gestion totale confiée à Terra Mine. Donc, on se pose la question, la partie algérienne, ce sera quoi son rôle? C'est une question pour laquelle nous n'avons pas de réponse. Donc, au bout du compte, l'Algérie, elle recevra, dans le meilleur des cas, 65 millions de dollars sur 20 ans.
Tout ça pour ça.
Tout ça pour ça, pour détruire toute une région. Moi, quand je parle de la vallée de la Soummam, j'ai dit, j'espère qu'un jour, on ne dira pas la vallée de la mort. Parce que ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que je fais appel non seulement aux autorités, qu'elles soient nationales, qu'elles soient locales, qu'elles soient de wilaya, à nos élites, ne laissez pas faire ça. Parce que ça n'en vaut pas la peine. Gardez la vallée de la Soummam. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que la vallée de la Soummam, elle est classée par la convention de Ramsar comme réserve biologique naturelle mondiale.
Mondiale, oui. C'est un patrimoine.
Et nous avons ratifié la convention de Ramsar, donc on ne devrait pas y toucher. Voilà ce que je voulais ajouter.
Mais si c'est un projet rentier, ça veut dire qu'en plus de tartiner les amis et les collaborateurs, entre guillemets, ça permet aussi au passage de se sucrer.
Ah ben ça,
j'imagine que c'est...
C'est pas perdu pour tout le monde.
Absolument. Alors pour en revenir à notre projet du siècle, celui de M. Tebboune, la plus grande la plus grande ferme laitière du monde et de l'histoire. De combien de vaches sera constituée?
270 000 vaches. 270 000 vaches.
Un peu plus qu'un quart de million.
Oui.
De vaches.
Oui, de vaches laitières. Et en plus, il y aura produire du bétail. Donc, il y aura des génisses, etc., oui. pour alimenter,
pour la boucherie.
Non, pour le lait.
D'accord.
Certainement.
Ah, d'accord. Ok, oui. D'accord. Oui. Mais Est-ce que vous pouvez nous donner une idée comme ça, une fer? D'abord, la deuxième plus grande fer du monde.
La première grande ferme du monde, parce que là...
Après notre projet national.
Oui.
Qui sera la deuxième?
Qui marque le bled, qui dit...
Mais la première en ce moment.
C'est en Arabie Saoudite, avec 94 000 vaches. Donc on est loin de ces chiffres pharaoniques. On se demande pourquoi. Qu'on ait 3-4 projets dans des zones différentes, etc., ça peut se concevoir. Mais dans une seule région, avec toutes les technologies que ça va impliquer, tous les contrôles, et vous savez, on va produire du lait en poudre, donc des conditions d'hygiène très poussées, des contrôles très inhabituels dans un pays où on n'a pas encore cette capacité de faire dans le micron en matière donc de contrôle, qu'il soit bactériologique, qu'il soit chimique, etc. Et la production astronomique de lisier, c'est-à-dire les déchets, les déjections de vaches, avec tous les additifs chimiques qu'il faudra faire pour produire le lait en poudre, et avec toute la quantité d'eau dont il sera nécessaire de pomper de l'Albia. Donc, on se pose la question, pourquoi ces choix? Est-ce parce que l'eau sera pratiquement gratuite? Et ça, c'est grave, parce que c'est l'eau, c'est notre eau, notre patrimoine.
Celui de nos enfants.
Je vous avais raconté une anecdote tout à l'heure, et pour montrer que même les Américains s'intéressent
Dites-le nous.
Oui, les Américains considèrent, à travers une étude que j'ai eue, donc le bonheur de... ou pour mon malheur, je ne sais pas, de consulter, qui disait que la nappe de l'Albia en Algérie est considérée comme réserve d'eau douce pour les États-Unis. Et on faisait le parallèle justement avec le Groenland. Donc,
ça veut dire qu'il faut rappeler que cette réserve d'eau, qu'ils vont très probablement massacrer, est la plus grande mer intérieure du monde.
Au monde.
Mer d'eau douce.
Oui, oui.
Au monde.
Mer d'eau douce. Bon, elle est salée à certains endroits. Mais on sait dessaler, surtout de l'eau douce, on sait lui enlever le
Mais l'autre, avant que vous ne puissiez donc poursuivre, l'autre, et moi je suis profane en la matière, l'autre interrogation qui se pose, c'est qu'à Adrar, il n'y a pas d'exutoire naturel, il n'y a pas d'oued, ou qui puisse aider à évacuer plus loin les déchets.
Oui, donc vous n'êtes pas si profane que ça, puisque une question qui se pose.
Ça saute à...
Absolument. Mais... Donc, lorsque vous regardez le projet en détail, parce qu'il faut dire que c'est une technologie allemande, ce n'est pas une technologie qatari, on nous dit que ce sont des fonds qatari. Là, enfin, je ne suis pas un économiste, donc je ne peux pas m'engager là-dessus. Mais il va falloir des stations, une grosse station d'épuration, parce que c'est une masse énorme de déjection, donc c'est ce qu'on appelle le lisier, qui devra être traité, y compris les eaux de fabrication, pour lesquelles il faudra des additifs, donc des coagulants, des additifs chimiques.
Et la technologie qui va avec.
La technologie.
Il faut avoir du personnel spécialisé.
Tout à fait. Bon, là, on nous dit on va former les gens donc à exploiter cette ferme. Pourquoi ce gigantisme?
Moi, j'ai vu des fermes laitières de 200-300 vaches. Quand j'ai vu le lisier, c'est-à-dire les
déjections. C'est énorme.
Et ça nécessite un investissement encore plus énorme.
Je
ne
sais pas si j'ai les chiffres pour le liser, mais c'est quelque chose qui... l'eau d'abord, pour donner des chiffres, là aussi c'est des chiffres qu'on tire du projet lui-même.
Hein. D'accord.
C'est en moyenne, donc l'eau consommée annuellement, c'est en moyenne 13 millions de mètres cubes, soit 5% de la consommation annuelle de la ville d'Alger.
13 millions de mètres cubes par jour.
Non, par an.
Par an.
Ah, bon. Et
5% de la consommation en eau potable de la capitale.
La capitale.
De toute la population.
De 4 à 5 millions d'habitants.
4 à 5 millions d'habitants.
Par rapport à 270 000 vaches. Si on devrait faire la comparaison.
C'est la comparaison, elle parle. Hein,
oui,
c'est...
oui. Et ces 270 000 vaches vont produire en moyenne 5 millions de mètres cubes par an de lisier. 5 millions de mètres cubes, C'est-à-dire, c'est 5 milliards de litres de déchets très...
très toxiques, très nitrates, qui n'est pas recyclable.
Bien, bien sûr. Et donc, bien sûr, en principe, le lisier, dans beaucoup de pays dans le monde, on l'utilise aussi pour l'épandage au niveau des terres. Mais c'est un lisier qui est traité.
D'accord.
Quelles sont les terres qu'on va traiter dans le sud? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et donc, la question aussi qui se pose, d'où va venir cette eau? Va venir de l'Albien? Où va partir cette eau polluée? Ce sera au niveau de l'Albien.
Pour que les gens comprennent bien, une fois utilisée cette eau de 5 millions de mètres...
Il faudra la rejeter.
Et après, il faudra la rejeter.
Ah, bien sûr.
Et la rejeter où? Il n'y a pas d'exutoire naturel.
Donc, quelque part...
Il faut la stocker quelque part.
En fait, on nous dit...
Oui.
D'une manière très innocente, qu'il y aura une station d'épuration.
D'accord.
Et cette eau-là épurée va être réinjectée dans l'Albien.
Une station d'épuration pour combien de quantité?
La
quantité d'eau usée?
Ce serait 13 millions de mètres cubes.
Par combien? En combien de temps?
Sur une année. Par an.
13 millions de mètres cubes.
Oui.
Et donc, j'imagine, sans connaître le sujet, qu'il faudrait une station absolument encore plus géante que la
Terre. Une grande station d'épuration. Mais, en fait, la question qui se pose, à supposer que cette station existe, va être construite, va être dans les normes, un peu comme la station d'épuration d'Alger. Si je vous disais le nombre de pannes que cette station d'épuration à Alger a connues et qu'on est encore, c'est inimaginable. Et d'ailleurs, j'en profite pour donner une information récente. Comme je suis abonné à des publications scientifiques, on parle du marais de Regaïa, qui est considéré comme zone humide d'importance internationale.
Oui.
Pourquoi? Parce que c'est une zone de passage de tous les oiseaux migrateurs qui viennent du sud pour aller vers le nord et vice-versa. Cette zone humide, elle est totalement polluée, parce que toutes les eaux usées vont au niveau de ce marais.
Incroyable. Alors qu'elle est censée être totalement protégée.
Tout à fait. Et la station d'épuration d'Alger devait traiter toutes ces eaux-là qui se déversent dans le marais de Regaïa.
Oui.
Moi, je trouve ça tellement dommage, tellement dommage.
Alors, 270 000 vaches laitières, qui vont produire combien de lait en poudre, selon eux?
Ah oui, là, ils disent que ça va couvrir tous les besoins de l'Algérie.
D'accord.
Et 55% pour l'exportation.
55%? Ça veut dire qu'ils ont de l'ambition, hein?
Oui.
Non seulement satisfaire une demande qu'ils ne sont jamais parvenus à satisfaire. Alors, le problème est que... J'imagine qu'il y a des conditions pour les vaches laitières. Surtout que ça va être des vaches laitières un peu comme en Arabie Saoudite, en plein désert.
Oui, oui.
Mais, donc, il n'y a pas de fourrage vert. Donc, il va falloir...
importer de la nourriture. Et mieux que ça, il faudra asperger d'eau ces vaches parce que les températures sont tellement excessives qu'une vache qui n'est pas humidifiée d'une manière permanente ne peut pas produire et risque même de décéder. Donc, il faudra des brumiseurs.
Oui, des brumisateurs.
Et donc, toute une eau.
Et une climatisation, parce que la température est très élevée.
Non seulement la température, mais également le taux d'humidité sur la peau des vaches. Il y a toute une technologie qui existe, effectivement, au Qatar. Le Qatar a produit son propre lait en poudre. Oui. Il couvre tous les besoins du Qatar. Donc, on se demande pourquoi Qatar vient investir chez nous donc pour l'exportation.
Et pourquoi elle n'a pas investi pour une ferme à 270 000 pour exporter?
Oui, oui.
Mais à partir du moment où elle maîtrise la technologie, pourquoi avoir réduit ses besoins à juste la consommation locale à partir du moment où
ils
maîtrisent?
Oui, ils exportent une partie dans les pays du Golfe.
D'accord.
Mais les Saoudiens ont une ferme équivalente.
Et de combien?
Qui est plus grande. qui est trois fois plus grande que la ferme qatari, qui est de 94 000 vaches, on en avait parlé.
Et en Occident, il y a des fermes de ce
type ? Oui, il y a, mais en Chine aussi, bien sûr.
De quelle capacité ?
La capacité varie entre 40 et 50 000 vaches.
Mais pourquoi, diable, monsieur Tebboune ? Franchement, je me pose la question, j'essaie de comprendre.
Ce sera la plus grande ferme laitière pour la production de lait en poudre, entendons-nous, au monde. Et ça, on va le dire, vous verrez,
on le dit déjà.
Oui, on le dit déjà. Et ça veut dire quoi, le plus grand, le plus beau, le plus... Je ne comprends pas.
C'est pour les besoins de la galerie. Hein, monsieur Tebboune est dans cette mégalomanie compulsive.
Mais on parle d'un pays, monsieur Nouveau. On parle d'un pays.
Ce pays est sous contrôle.
Ils ont besoin de se gargariser comme ça avec des chiffres, parce que ce sont des chiffres.
Oui.
Et c'est ça. En fait, moi, je vous dis sincèrement, monsieur Nouveau, ce qui me désole le plus, c'est que nos experts en Algérie ne sont même pas en mesure de parler de chiffres et de réalité scientifique. Moi personnellement, je ne leur demande pas plus. Je ne suis pas habilité à demander quoi.
Parce que c'est leur demander d'aller en prison.
Je sais pas. On ne parlera pas de politique. Bon, on a le cas de Jilul Slama, c'est sûr.
On n'a pas parlé de politique.
Oui, c'est vrai. Mais à un moment donné, il y a cette fibre qui doit s'exprimer. C'est pour ça que je lance un appel.
Il va du salut public.
Ça ne sert à rien.
Oui.
Ça ne sert à rien. Une fois que ce sera fait, une fois que les dégâts seront là, vous allez incriminer qui ?
Oui. Eux, entre-temps, rejoignent leur base arrière.
Il y a le destin biologique qui va les protéger, en quelque sorte, entre guillemets.
Maintenant, concernant l'aspect... J'allais dire professionnel, technique de l'élevage, j'imagine que ça doit être d'une complexité énorme.
C'est une technologie allemande.
Allemande, de A à Z. En plus des besoins propres à la vache laitière, côté vétérinaire, côté climat.
Ils disent qu'ils vont former, tant mieux.
Mais est-ce qu'un pays sous-développé comme l'Algérie, qui n'est même pas émergent, Monsieur Tebboune nous avait promis pour le.
Ah d'accord.
C'est bientôt.
Nous n'y sommes pas encore.
Pour la, il nous avait promis pour la fin.
Là, vous me.
La fin 2025. Et le début 2026, nous a-t-il dit, l'Algérie va atteindre. Il a dit avant la fin du deuxième semestre. Ouais. Il a dit l'Algérie va atteindre 440 milliards de dollars PIB. Et nous allons entrer de plein pied dans le précaré des pays émergents. Et donc, mais moi j'imagine que cette technologie très avancée, même si nous avons un partenaire occidental, il va avoir. Ce n'est pas en circuit fermé. C'est un peu comme le tourisme. Le tourisme, il ne suffit pas de construire un hôtel. Ouais. Il faut les routes, il faut la sécurité, il faut la propreté, il faut le civisme, il faut le ramassage des ordures, il faut la propreté des plages, il faut les transports, c'est un tout. Et ces vaches laitières, ils vont dépendre d'un système qui est fait de tout.
Oui, c'est une technologie. Entièrement avancée, qui va demander des connaissances,
des compétences, des formations, sérieux, une organisation.
Très pointue. On n'a pas le droit de dire oui, mais on n'est pas capable de le faire. Ok. Moi, je vais vous donner un exemple pour illustrer tout ça. Parce que vous avez parlé de circuit fermé, ça a tout de suite, comme disent les Anglais, ring a bell. Donc, dans mon cerveau, j'ai pensé à la levurerie de Bouchegouf. Je ne sais pas si vous l'avez connue. La levurerie de Bouchegouf.
Non.
C'était une levurerie qui était à circuit fermé. C'est une technologie italienne.
Fabrique de la levure de boulanger ?
Oui, pour justement couvrir les besoins de l'Algérie et exporter 55% aussi, je ne sais pas si c'est un chiffre magique, l'extérieur, la levurerie, notamment en Afrique. Et d'ailleurs, tellement de projets comme ça, les engrais phosphatés, les détergents et tout, on disait toujours, on couvre les besoins nationaux et tout le reste sera exporté, comme du cimenterie, etc. La levurerie de Bouchegouf était un trésor de technologie. Je la connais très bien, Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, il y a eu des problèmes. Et croyez-moi, le personnel a été formé en Italie. Vraiment, j'étais admiratif du chef de production, des ingénieurs qui avaient tout, mais ils n'arrivaient pas à maîtriser le circuit fermé. Il suffisait qu'il y ait quelque chose qui cloche au niveau de tout le circuit.
Que ça perturbe tout le...
Ça perturbe et que ça crée une pollution massive. T'as l'ouest de Bouchegouf. Oh, donc j'y allais pour ça, moi. J'y allais pour ça. Et je disais au patron de l'usine, je disais au directeur de l'usine à l'époque, je comprends pas. Tout est avec. Ils avaient une salle des commandes avec tout. On contrôlait tous les circuits de distribution pour la production donc de la levure et parce que c'est quelque chose de très biologique. Il y a un processus bactériologique très poussé. Il me disait, Monsieur Sahmed, je vous assure qu'on fait très attention. Il y a des nuits, mais on n'y arrive pas. Parce que.
C'est parce que l'environnement.
C'est une technologie qui est faite pour qu'on fasse appel aux Italiens tout le temps. Ça aussi, on soupçonne. Et rien n'empêche de croire que les Allemands ne feront pas la même chose au niveau de cette ferme. Ou notre formation n'est pas complète.
Et puis, ça dépend de l'environnement. L'environnement influe forcément dans ce genre. Oui. La bureaucratie, les transports.
Il fallait ramener aussi beaucoup d'ingénieurs et leur construire un immeuble.
Oui.
À côté de l'usine. Moi, j'en étais fier, franchement.
Oui.
J'en étais fier parce que je me suis même lié d'amitié avec tout le personnel de l'usine. Mais il paraît qu'elle est fermée.
Ben voilà.
Elle est fermée.
Donc, mais pourquoi, Monsieur Tebboune, d'après vous, je vous pose la question pour essayer de comprendre, parce que je sais que vous n'avez pas la réponse. Pourquoi, Monsieur Tebboune, à la limite, n'a-t-il pas décidé de lancer une ferme laitière de 10 000 vaches ?
Et ne bdaou, on commence.
10 000, c'est déjà énorme. Énorme.
On continuera à importer, maalich.
Mais, ou bien, note là-haut, déroule une deuxième de 10 000, ou bien une troisième, ou bien du.
C'est ma question. C'est exactement ma question.
Commencer par une. La plus grande
ferme. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? J'ai de la peine à imaginer que il y a. J'ai pas envie d'être complotiste. C'est pas mon rôle non plus. Oui. Mais sincèrement, d'un point de vue rationnel, d'un point de vue logique, d'un point de vue entendement de la chose du pays, parce qu'on parle de notre pays.
Oui.
Je n'arrive pas à trouver des réponses. Où elle est ce gigantisme? Elle est dans un journal, dans les médias, la plus grande ferme au monde.
La mégalomanie.
Pourquoi faire?
La mégalomanie. La mégalomanie.
Moi, ouais, me disent, on a la plus grande mosquée, minaret le plus haut et tout, mais allez,
ça ne porte pas à conséquence.
Non. Ouais. Encore qu'il faudra effectivement maintenir tout ça en bon état, etc. Oui, j'espère que c'est le cas. Mais quand on parle d'un outil de production. Quel outil de produit? Bon, on peut parler de ce qu'on appelle le PIP, le projet intégré phosphate de Tembessa.
Oui.
Vous voyez aujourd'hui ce que fait la Tunisie comme investissement, les investissements que font les Marocains, les investissements qui se font en Asie. On se demande où est-ce qu'ils vont placer ce produit engrais phosphaté. Encore faut-il qu'ils produisent les engrais phosphatés comme ils le faisaient à Annaba. Là, je suis sûr que ce sera de l'exportation. On va tirer le phosphate et bête. Et c'est pour ça. Quand on est en train de terminer la ligne de chemin de fer, Bled el-Hadbal jusqu'à au port d'Annaba, un autre projet rentier. Ça dit le phosphate Kain, bien bio. Alors que les Tunisiens, ils viennent d'investir dans la rénovation totale de l'usine de Gabès pour la production d'engrais phosphatés, sans oublier qu'ils ont massacré le détroit de la baie de Gabès. Mabkach, il n'y a pas un poisson qui vit là-bas.
Oh là là.
Et ce sont toutes ces questions qui me tiennent à cœur. Encore une fois, on n'est pas contre le développement du pays, mais un développement durable, un développement rationnel, un développement qui va nous apporter de la valeur ajoutée. Bon, vous retirez du phosphate, tout le monde peut retirer du phosphate. Et ce n'est pas du tout un problème. La seule technologie, c'est comment l'extraire et comment le transporter. Mais c'est pour effectivement massacrer la région, provoquer des problèmes multiples qu'on ne saura pas gérer et qui n'apporteront pas de valeur ajoutée à l'économie nationale, parce qu'on nous dit c'est se préparer à remplacer la rente par les hydrocarbures. Vous la remplacez par une autre rente. Et la même chose pour le gaz de schiste. Il faudra qu'on en parle un jour.
Je compte
parce
sur vous
pour
ça.
C'est un sujet très dangereux.
Absolument, absolument.
Très dangereux.
Et qui est dans la ligne de mire d'une collaboration très secrète entre les Américains.
Chevron, ExxonMobil et Total.
Oui. Il faudra qu'on en parle. J'espère que nous pourrons faire une émission.
À votre disposition.
Depuis chez vous. Mais aujourd'hui, nous avons un incident technique. Nous allons devoir écourter, malheureusement. En tout cas, est-ce que vous auriez quelque chose d'autre à nous dire sur...
Que tout ce qu'on est en train de dire puisse servir à quelque chose. Moi, encore une fois, je ne veux pas avoir l'air d'un rabat-joie ni de quelqu'un d'omniscient. Je vous assure que ce sont des informations, et je le répéterai tout le temps, que je tire de ce que je lis, de ce que produisent, par exemple, le site web Beledna Qatari, les Allemands, la technologie allemande, Teramine pour Tala Hamza, les Chinois pour GarageBuild, ce sont leurs propres informations que je vous livre oui. et qui me font réfléchir et qui me font rebondir sur un certain nombre de choses. Et encore une fois, nous parlons de notre pays et je vous assure qu'on est... À la limite, on peut accepter qu'il y ait de la gabégie, de ce qu'on voit aujourd'hui. Mais pour nos générations futures, nous n'avons pas le droit. C'est nos générations futures qui seront, comment dirais-je, punies par d'abord la façon dont ce pays est géré ou non géré, en fait, et aussi le silence de nos élites. Je dis à nos élites, s'il vous plaît, dites quelque chose, un mot, pas plus.
Trop leur demander.
Non.
En ces temps de terrorisme d'État, très franchement, moi je comprends hein, vos appréhensions.
J'ai pas de leçon à donner parce que moi je suis pas en Algérie.
Oui.
Je n'ai pas de leçon à donner. Mais au moins, même les élites qui sont à l'étranger.
Là oui.
Je ne comprends pas et je veux pas faire de digression.
Peut-être qu'ils n'ont pas une idée sur la problématique en soi, cette urgence. Qu'il y a à sauver les meubles avant qu'il ne soit trop tard. Les gens, peut-être qu'ils ne ressentent pas ces problèmes d'atteinte à l'écologie, aux nappes souterraines.
Non, je ne dirais pas ça. Parce que, ces mêmes personnes à qui je parle aussi me donnent ce type d'informations. Mais c'est toujours le mot de la fin, la relpe.
Oui.
Voilà, c'est mon mot de la fin.
Alors, on me rassure, docteur Sidi Mennel, que ce bruit qui nous gêne un peu, va être réglé dans l'émission, on ne l'entendra pas. Donc je vais vous garder encore quelques temps, si vous voulez bien. Et restons justement sur ce manque d'intérêt de la société, des dirigeants, des élites, si on peut dire, des partis politiques, de la presse, de la société civile d'une manière générale. Cette absence totale de conscience de ce qui est en train, en ce moment même, et depuis très longtemps d'ailleurs, de se perpétrer contre la nature en Algérie, contre l'environnement, contre l'écologie, et qui laissera des séquelles...
Nos richesses.
D'ailleurs, je rappelle, par exemple, pour donner un exemple parlant, que ce régime a réussi à berner tout un peuple pendant des décennies, à nous cacher qu'il avait signé des accords secrets avec la France pour se livrer à des essais chimiques, bactériologiques et nucléaires dans le plus grand secret.
Je peux en dire un mot ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Justement, j'aimerais bien savoir, est-ce que le travail a été fait ? Est-ce que les sites ont été nettoyés ? Auquel cas, si c'est le contraire, si le terrain n'a pas été nettoyé, pourquoi alors avoir créé un camp de concentration pour les islamistes de l'époque en plein cœur du polygone ?
Pas forcément. Moi, je connais j'avais des voisins, des jeunes qui n'avaient rien d'islamiste et qui ont été tout simplement soupçonnés de quoi
voilà,
que ce soit et qui ont été envoyés dans le sud.
Oui. Moi, je connais un docteur, professeur, Saoud Ouzialar. Éminent médecin reconnu dans tout l'Occident, qui a été enlevé de chez lui, et qui a fini dans ce camp de concentration.
Dans des jeunes, et qui ont été torturés dans les camps de concentration.
Qui ont été exécutés, certains.
Certainement.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur...
Écoutez, d'abord, les essais nucléaires, ça fait partie, nous dit-on, des accords d'Évian. Très bien.
Ce qu'ils appellent les accords secrets d'Évian.
Sauf que, on ne pouvait pas ignorer le caractère nocif de ces essais. C'est vrai que dans le subconscient des gens, c'est une zone désertique, mais même s'il y a un seul habitant, on n'a pas le droit de le contaminer. Moi, c'est ma façon de voir.
Bien sûr.
Il y a eu ces essais-là, effectivement, ça a contaminé toute une région. Il y a des documentations précises là-dessus. Qui sont disponibles au niveau de centre du CEN, le fameux CEN de l'époque, ce sont des études nucléaires, à Tagarin. On peut aller consulter les archives avec toutes les données qui avaient été fournies par la France et aussi faites par des ingénieurs algériens, donc notamment des ingénieurs en nucléaire, etc. Parce que nous en avons.
Oui.
Donc beaucoup maintenant ne sont plus en Algérie.
Oui.
Eh bien... cela montre le degré de contamination de l'air et du sol. De l'air et du sol. Mais pire encore, ce qu'on ignore, moi j'avais proposé une étude épidémiologique à ce sujet, quelles sont les retombées de ces substances radioactives sur le nord de l'Algérie, puisqu'on retrouve des sables en Europe contaminés.
Voilà. Ça voyage.
On nous a toujours refusé cette étude. Je le dis officiellement ici.
On vous a refusé. On nous a refusé les retombées possibles
de faire une étude sur les retombées
des essais nucléaires dans le nord du pays.
Des substances radioactives dans le nord du pays. Je vous jure que c'est le terme qui a été utilisé à l'époque par un ministre dont je ne citerai pas le nom. Mais pourquoi je ne citerai pas M. Oui. Hadj Slimane ?
Voilà, exactement.
Quoi ? Enfin, et mieux que ça, un jour, dans mon bureau, je reçois une information donc, de la Wilaya de Béchar qui me dit, écoutez, il y a une mortalité de bétail qu'on n'arrive pas à expliquer. Notamment des chameaux, des chèvres, des moutons, c'est une région d'élevage. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut venir. On est allé avec mon équipe. On avait à l'époque des camions laboratoires. Et c'est la région de Wenemus.
Le polygone, là où se faisaient les essais nucléaires. Chimiques et bactériologiques.
Je ne savais pas. Je vous assure que je n'avais jamais entendu parler de cette base B2, Wenemus. Quelle année il faut aller au sud de Wenemus? Il y a une base militaire française. Je suis dans la base militaire française en 1984.
C'est resté jusqu'en 87.
Ce que les gens... Non, ça a été évacué avant.
Ou en 78, si
ça a été... Ça a été évacué en 82, fin 82.
D'accord.
Mais évacué comment? Ils ont tout laissé sur place. Les véhicules, les quantités de carburant, en voulez-vous, en voilà. Et surtout, les substances chimiques. Très toxique, notamment le gaz moutarde, le fameux agent orange, jaune plutôt, qui était utilisé pendant la guerre d'Algérie pour le produire du napalm avec lequel on a bombardé des villages algériens.
Oui.
Je l'ai vu de mes propres yeux, M. Mouchnouf. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et c'est des quantités.
Qui servait aux essais chimiques.
Qui servait, et beaucoup d'autres substances chimiques, je ne vais pas vous faire la liste, on avait une équipe spécialisée dans tout ça, et c'était enfoui dans le sable. Enfoui, simplement. Donc, il y a eu
des infiltrations, des ruissellements.
Notamment le carburant, il coulait pratiquement à flot, et les substances chimiques n'étaient pas du tout protégées. Et ça a fait quoi? Ça a pollué des puits qu'utilisaient les populations environnantes.
Les nappes.
Les nappes. Et c'est un puits où venaient boire
les
bêtes. Vous savez, ils nous racontaient qu'il y a un mouton, par exemple, tel gars, il est en train de courir jusqu'à ce que son cœur explose et il meurt. Alors que c'était une contamination chimique. On avait fait un rapport. Fait un rapport circonstancié. On a fait 3 missions là-bas, donc on a fait des prélèvements. Je vous dis pas les résultats des prélèvements chimiques et bactériologiques. C'est quelque chose d'effarant. Comment a-t-on pu laisser une base comme celle-là être évacuée sans exiger de l'armée française ou de l'État
nettoyer.
Français de, non seulement de nettoyer, mais de prendre leur saloperie.
Oui, oui.
Ça, c'est la moindre des choses.
De décontaminer de façon...
Et je vais vous ajouter autre chose qui va vous étonner. Il y avait des documents qui étaient classés confidentiels.
Qui traînaient, là.
Et au bout de la deuxième mission, les documents avaient disparu.
Oui, disparu entre
eux. Ils avaient été pris par les services algériens. En tout cas, il faut plus en parler. Et donc, si vous voulez, on a dit, bon, OK, c'est arrivé. Maintenant, on peut nettoyer. Je vous parle de ça en 1984. On peut nettoyer. Comment faire pour nettoyer? C'est donc creuser sur un large périmètre et sur 30 mètres de profond, 300 mètres de profondeur.
Avec des couches de plomb, de béton assez épaisses.
Non. Creuser d'abord. Enlever tout le sable contaminé. Et c'est vrai que ça coûte très cher. Rendez compte sur une superficie peut-être de 2-3 hectares. Et sur 300 mètres de profondeur, ça en fait des déchets. On leur a dit, mais on n'a pas le choix, c'est la santé des populations qui est en jeu, parce qu'on ne sait pas qui a été contaminé comme habitant. Le bétail, oui, on a envoyé ça, mais les habitants ne savent pas. Il dit, mais vous ne savez pas ce que ça va coûter. Mais oui, mais c'est ça, un pays qui se respecte. Et vous allez présenter la facture à l'État français par la suite. Il y a des tribunaux internationaux pour
bien
ça.
Sûr.
Non, je me souviens, c'est un colonel qui m'avait dit, mais monsieur, vous savez pas que vous connaissez pas les accords des vieux à votre âge. Quelqu'un de plus jeune que moi, entre parenthèses. Oui, je connais les accords des vieux. Mais les accords des vieux permettent ce type de gâchis.
Mais ça, ce n'est pas dans les accords des vieux. Ça n'a jamais été publié.
Non, mais on ne peut pas demander... de compensation à l'État français. Bon, c'est ce que j'avais compris.
Mais sauf qu'ils nous l'ont caché. Nous ne savions pas, nous ne connaissions pas.
Il y a eu une interview d'un général à l'époque, assez récemment plutôt, qui a nié ne pas savoir qu'il y avait une base B2 de l'armée française à Ouidnemouth. Vous vous rendez compte, un général. Je suis au courant, le général ne
c'est incroyable, c'est un véritable complot contre le peuple algérien par ce régime qui se dit le digne héritier de la révolution du Nord.
Moi, je vous dis franchement, en dehors de tout ça, au-delà de ce que je suis en train de dire, je ne peux pas comprendre. Mais alors, pas du tout. Comment a-t-il été possible d'envoyer des jeunes dans ces zones contaminées, que ce soit du côté de Ouidnemouth, que ce soit du côté des essais nucléaires, ou du côté d'Ergen, etc.
Ergen, oui.
Ain Aker, du côté d'Ain Aker. Je ne comprends pas. C'est un crime.
Ils l'ont fait exprès, c'est délibéré.
Bien sûr que c'est délibéré.
Ils voulaient qu'ils meurent là-bas, d'une façon...
A-t-on le droit de faire ça? Des jeunes, moi je vous parle de jeunes de mon quartier, je vous assure qu'ils n'avaient rien dit, que à supposer qu'ils étaient islamistes.
Oui.
On les punit de cette manière.
Plutox.
C'est exactement. Ouais. Exactement.
Comme des insectes malfaisants.
Et il y a des gens dans le quartier où j'habite qui ont contracté des cancers. Qui est responsable? Qui peut aujourd'hui dire « Simhouli, excusez-nous, pardonnez-nous »
Jamais ils le feront.
Un jour, ça se fera, parce que pour moi, c'est un crime contre l'humanité. Mais ceux qui ont signé le décret pour envoyer ces jeunes au niveau des camps, peut-être certains ne sont plus de ce monde, et vous savez à qui je pense.
Oui.
Mais... je suis désolé. C'est quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire. On ne peut pas signer un tel décret lorsqu'on nous dit aujourd'hui, voilà, on a arrêté les élections au-delà de ce débat de deuxième tour, etc. Et maintenant, on va s'occuper réellement de l'Algérie. Et la première décision, c'était cela, envoyer des jeunes se contaminer. C'est des camps de concentration comme du temps des nazis. En
quelque Ils ont sens. Même envoyé leurs propres soldats sans les prévenir. Ben oui.
Pourquoi pas, tant qu'à faire.
Les crever, leurs propres soldats qui gardaient le polygone.
Ben, parce qu'il fallait les garder.
Voilà, qu'ils meurent, il n'y a pas de souci.
Moi, ça, je trouve que c'est... Il faut que quelque part, un jour, un dossier soit, comment dirais-je, documenté d'une manière la plus minutieuse possible... Elle présentait à des instances judiciaires.
Des cours pénales internationales.
Internationales, ou même à l'intérieur du pays.
Oui.
Le
jour où nous pourrons nous permettre une.
Il faut le faire même maintenant.
C'est justice.
Gaël a dit les tribunaux algériens vont rejeter. Mais on l'aura fait.
Oui, c'est vrai.
Et il y aura une deuxième étape, parce que c'est comme ça que ça fonctionne au niveau international. Ils vous disent il faut nous montrer que vos propres juridictions ne veulent pas faire leur travail. Donc, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et je vous assure, quand j'y pense, je dis, est-ce que nous sommes réellement en Algérie? Est-ce que nous avons eu affaire à des êtres humains? Et qui aujourd'hui, ces mêmes personnes nous parlent de Jezeer Jadida, de projets titanesques, qui continuent la répression, qui continuent à emprisonner, notamment des jeunes. Des jeunes, pourquoi, comment peut-on briser la vie d'un jeune? Ce n'est pas acceptable. Quelqu'un qui, apparemment, pour un petit truc sur Facebook, il écrit un post, il fait un like ou je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas, M. Benchenouf.
Je vais finir par une anecdote. Ça m'est arrivé tout à l'heure, j'étais à la poste. En sortant de la poste, j'ai été apostrophé par quelqu'un. Monsieur Béchinourt, oui, bonjour. Écoutez, moi, j'aime beaucoup vos émissions, je vous suis. J'ai un reproche pour vous. Et il ne s'est pas rendu compte, il s'est mis à hurler. C'est la première fois que ça m'arrive. Comment vous soutenez les terroristes, islamistes? Les gens se sont arrêtés dans la rue. Ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, monsieur, calmez-vous. D'abord, vous n'avez pas à m'apostropher, à m'aborder, je ne vous connais pas. Vous m'avez dit bonjour, j'ai dit bonjour. Oui, mais vous savez pas, moi je les ai vus de mes yeux. Et vous les défendez, les terroristes. Je lui dis, mais je défends pas les terroristes. Parce que si je défendais les terroristes, je défendrais les gens qui ont assassiné des centaines de milliers de gens, de civils, au nom des terroristes, alors que c'était à Ben Aknoun qu'ils concoctaient les fatwas de mort. Donc moi je sais mieux que vous. Mais il a été pris d'hystérie. D'ailleurs, je regrette de lui avoir un peu parlé, mais pour vous dire à quel point, à quel niveau, à quels abysses.
C'est pour ça que je fais appel aux élites, monsieur.
Nous avons été précipités.
J'en appelle à toutes nos élites. Elles sont les seules aujourd'hui à porter la voix de l'Algérie. Je suis désolé.
Oui.
Cheb, il fait ce qu'il peut. On peut dire qu'il a peur, on peut dire qu'il ne croit plus en nous. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est pour ça que hier, je disais, il faut qu'on montre que nous sommes capables d'action pour justement dire au peuple, on peut faire quelque chose. Que ce soit la diaspora, que ce soit à l'intérieur du pays. Mais encore une fois, c'est très difficile de donner des leçons dans ce climat aujourd'hui.
Absolument. Nous qui sommes à l'étranger, qui sommes à l'abri, c'est difficile. Merci, docteur Sidi Mened Si Ahmed, pour... cette sympathique causerie, vous nous avez beaucoup apporté. J'espère que nous pourrons parler avec la même ouverture, avec la même sincérité de ce danger qui pèse sur le ciel.
Je l'ai toujours fait, c'est bien sûr.
Je sais. Moi, je vous suis et je sais que vous l'avez toujours fait. Et vous allez devoir continuer à le faire avec cette histoire du gaz de schiste pour la prochaine fois, j'espère.
Un autre sujet douloureux.
Douloureux. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission en deux parties. À bientôt.
Bonsoir.
J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir notre ami Sidi Mennad Si Ahmed, climatologue, expert senior auprès des Nations Unies, qui s'intéresse aussi beaucoup, en plus de la climatologie et proprement dire, à l'environnement, à l'écologie, aux mines, aux exploitations minières par conséquent. Et donc vous me voyez un peu venir. Nous allons parler de sujets et d'autres dont il a un peu creusé le sujet. Et vous allez voir, vous allez être très étonné de ce qu'il va vous dire. Sidi Mennad Si Ahmed, merci d'être avec nous.
Merci pour l'invitation et merci encore pour cette opportunité de parler de sujets qui me sont toujours très à cœur. Et je voulais aussi préciser que quand j'étais en Algérie, je m'occupais des études de l'environnement. Donc pendant très longtemps, j'ai été baigné dans cette ambiance de protection de l'environnement. À une époque en Algérie où c'était pas évident.
C'est vraiment le parent pauvre des préoccupations.
C'est le moins qu'on puisse dire. Mais en fait, on a été pratiquement, moi je peux me targuer d'être un des pionniers de la loi sur l'environnement, d'un certain nombre de décrets d'application, notamment le décret sur les études d'impact sur l'environnement. Ce n'est pas pour parler de moi, mais c'est juste pour
vous dire. Oui, mais qui ont dû essayer de l'être morte.
Non, décret sur les études d'impact, il a été même enrichi, amendé il y a quelques années, et on en parlera bien sûr.
Mais sur le terrain ?
Sur le terrain, pratiquement rien. Pratiquement rien.
C'est, m'en doutez.
C'est dommage de le dire. Et dommage n'est pas un mot fort, croyez-moi.
C'est le dernier de leurs soucis. Hein.
C'est incroyable. Et donc. On a essayé de mettre sur la voie toute une politique de protection de l'environnement. En ce qui me concerne, je suis allé plus loin avec des amis à l'université de Babzoua, puisqu'on a monté un module études d'impact. Et j'étais celui qui a assuré le cours sur les études d'impact. Et ce que je voulais dire par là, c'était l'engouement des jeunes étudiants à l'époque pour quelque chose qui était tout nouveau pour eux.
Oui.
Et c'était à l'époque où les documents n'existaient pas, les références étaient rares. On arrivait toujours à nous débrouiller que des amis de l'étranger en Europe nous envoyaient des documents. Moi, j'avais la chance de représenter l'Algérie à des réunions internationales, donc je ramenais avec moi des livres, des documents et tout. Et c'est une époque pour moi qui était tellement riche, qui montrait que la jeunesse, notre jeunesse de l'époque et d'aujourd'hui certainement, était vraiment très attachée, à la protection non seulement de nos milieux naturels, mais aussi à la santé des populations.
Une vocation d'explorateur, un pionnier.
Tout à fait. Et nous étions... temps à autre placardé. Moi, je me souviens des discussions que nous avions eues à l'époque à l'Assemblée populaire nationale, qui quand même, je dois le dire, il y avait quelques compétences au niveau de cette Assemblée pour faire passer la loi sur l'environnement. Et ça a été des batailles épiques.
J'imagine.
Des batailles épiques. Et j'ai encore en mémoire des réflexions, des... حبيتوا تعطلونا انتم في تنميه البلاد حبيتوا تحطمونا حبيتوا mais on avait tenu bon et la loi est passée mais je peux dire je soupçonne que à un moment donné beaucoup s'étaient dit on laisse passer خليهم بعد نشوفوا
ما عندهم ما يديروا mais c'est incroyable comment pouvez-vous expliquer avant qu'on en arrive au sujet brûlant dont nous allons parler. Comment expliquez-vous ce détachement, cette insignifiance, ce non-sens pour les Algériens de la chose écologique, de la chose naturelle, de ce qui nous concerne, l'air. D'ailleurs, vous m'avez raconté une anecdote sur votre père quand vous lui aviez annoncé votre choix de faire des études en écologie, sur... la nature, sur l'environnement.
Sur le climat. Ingénieur, parce qu'à l'époque, le mot mohendis, on ne sait pas trop. Donc,
c'est incroyable à quel état il nous en met.
Ouais.
Alors, si vous permettez, Sidi Mennad Si Ahmed, Nous allons commencer par le sujet du jour, Garage Billet. D'ailleurs, merci de m'avoir corrigé. Moi, je disais Garage Billet.
Non, c'est Garage
Billet. Garage Billet. Et nous allons commencer par Slama Jelloul, ce monsieur, expert à sa façon de
économiste, ouais.
Économiste, et qui est un peu dans ces affaires de mines, de minerais, d'exploitation minière, et qui avait donc donné son point de vue, son avis, sur le minerai en lui-même, et sur des choses qu'on nous a cachées ici et là. Il a été jeté en prison pour avoir
On ne sait même pas si vraiment il a été jeté en prison. C'est tellement...
On ne le sait pas.
C'est le voile total.
Non, le mandat de dépôt a été finalement signé.
Ah, il a été annoncé.
Finalement, mais après l'avoir enlevé...
Oui, pendant par des 12 jours.
Par des inconnus. Après, on a appris que c'était des gendarmes. Sa famille le cherchait. Et puis, il a été maintenu hors... la garde à vue réglementaire et constitutionnelle et juridique et légale, et il semble même qu'il ait été maltraité. Et donc, mais en fait, qu'est-ce qu'il a dit
En fait, d'abord, les chiffres qu'il a donnés, je peux vous dire une chose, c'est qu'il n'a pas exagéré. Au contraire, si on m'avait posé la question, d'une façon très modestement, je crois que j'aurais donné des chiffres encore plus alarmants. Croyez-moi. Mais ce n'est pas ma nature de toute façon. Il a dit en résumé que le projet ne serait pas rentable. Ça, c'est une évidence.
Il a même dit sur 50 ans.
Oui.
Sur un demi-siècle.
Je crois que c'est mes mots-là. C'est mes mots-là. Mais moi, je pense, à mon avis, l'élément... Je dirais déclencheur de son arrestation, ce n'est pas tellement la rentabilité de cette mine. Parce que, en fait, lorsqu'on parle de projets structurants, d'avenir dans le pays, mettre en place notamment des industries extractives, etc., on peut éventuellement accepter l'idée que ce ne soit pas rentable au court ou même au moyen terme. Mais moi, je crois ce qu'il a dit. Il a dit quelque chose qui a échappé à beaucoup. C'est qu'il a dit que c'est un projet rentier. Et ça, ça touche beaucoup. C'est-à-dire, on est en train de... Monsieur Slama, docteur Slama, a dit que ces gens-là ne sont pas pour une industrie, je dirais, d'utilisation du minerai pour fabriquer de l'acier, etc.
Non, c'est pour exporter.
C'est pour exporter simplement. En fait, c'est ce qu'il disait, et c'est ce que je crois aussi. Vous verrez à travers le débat qu'on aura là-dessus, c'est que, en ce qui me concerne, je suis convaincu que même si ce fer qu'on va extraire et qu'on va essayer de purifier ou de rendre, en tout cas, lui donner une qualité acceptable, si j'ose dire, eh bien, ce sera pour une industrie qui sera contrôlée par notamment des Chinois et des Turcs. Voilà la finalité
Dans cette fameuse société turque qui sent le soufre, qui serait très proche du fils du président, et il paraît que c'est ça surtout qui aurait cette société dont je ne me rappelle plus.
Tosiali.
Qui aurait le contrôle aussi du site industriel Terminal 2, qui est à Béchar. Il y en a deux, l'un à Garage Billet.
Garage Billet, c'est le site d'extraction.
D'extraction.
Et à Béchar, on parle d'une usine, d'un complexe sidérurgique. Mais effectivement, c'est une mainmise pratiquement totale de la firme Tosiali, donc pour ses propres besoins. Mais je ne sais pas si on peut rentrer dans le vif du sujet.
Bien sûr. Juste préciser que les Américains, à travers M. Trump et ses porte-paroles, ont dénoncé le projet parce qu'ils considèrent que Tosiali est une société privée turque qui sent un peu le soufre et qui est subventionné à hauteur de 70%.
Tout à fait. Et vous verrez dans les autres projets dont on parle, c'est le même schéma qui est suivi.
C'est incroyable de subventionner et de détaxer une société étrangère.
Absolument.
Parce qu'elle est proche du fils du président.
Il y a eu même des prêts qui ont été consentis par les banques algériennes parce que Tosiali se serait associé à une, disons, il y a une participation algérienne là-dedans. Et dès qu'il y a une participation algérienne là-dedans, les banques algériennes peuvent prêter de l'argent. Et on le verra pour les autres projets, c'est le même schéma.
Nous allons commencer par le côté le plus technique de la question. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de phosphore, dans ce très haut pourcentage qui rend ce fer quasiment inexploitable? Et qu'est-ce qui fait, quelle est cette histoire de blending, de mélange? Est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon accessible pour que...
Oui, c'est très simple. En fait, le minerai de fer de Garajbillet, il a une qualité qui varie, mais qui aussi entre 8 et 10 % de phosphore.
À l'intérieur du minerai.
Le minerai, c'est tout un ensemble. C'est pas que le
fer. Des constituants.
Il y a la gangue, ce qu'on appelle la gangue, qui à peu près représente 50 % du total.
Ça veut dire ce qu'il faut jeter.
D'un point de vue richesse du minerai, le minerai de Garajbillet est assez riche.
D'accord.
Mais d'un point de vue qualité, c'est une autre histoire. Et la qualité, c'est celle-là qui conditionne son exploitation. Or, cette quantité, je dirais, inacceptable de phosphore dans le minerai de fer, empêche, en principe, son utilisation directe.
Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a jamais été utilisé depuis tout ce temps, y compris par le colonialisme.
Oui, le colonialisme français connaissait très bien cette mine. Au-delà de, justement, de la qualité, de cette composition du phosphore, il y avait aussi tout ce qui était transport du minerai. Et donc, c'est pour ça que, d'après les sources que j'ai, les Chinois vont exploiter donc le minerai de Garajbillet pour la simple et bonne raison. Et j'ai discuté d'ailleurs aussi avec un géologue algérien, je ne citerai pas son nom pour ne pas qu'il ait les mêmes
les ennuis
que le docteur Selama, et qui disait que la méthode chinoise a été même testée en laboratoire en Algérie et qu'elle semblerait donner des résultats. Donc les Chinois disent qu'il y a une méthode de déphosphoration. On ne la connaît pas à l'échelle industrielle, il faut le préciser. Mais bon, ce sont les Chinois, et j'imagine qu'ils ont accepté d'exploiter le minerai de Garajbillet à condition qu'il soit transporté. D'où la ligne
de chemin de fer. D'où la fameuse ligne ferroviaire minière.
Et c'est l'Algérie qui la paie.
Et c'est les Chinois qui l'ont produit,
qui l'ont réalisé. Bien sûr, on parlera toujours d'une coopération, d'une collaboration avec COSIDER et d'autres entreprises algériennes. Mais en nous connaissant les prouesses techniques des Chinois, je peux en parler de long en large puisque j'ai moi-même visité à plusieurs reprises la Chine. Et à chaque fois que j'y allais, je trouvais de nouvelles infrastructures.
C'est hallucinant.
En des temps plus que records. D'ailleurs,
la photo lors de l'inauguration, une photo aérienne de la ligne qui passait dans les télés publiques algériennes et privées à la solde du régime.
C'était des airs chinois.
C'était la ligne chinoise qu'ils nous ont fait passer.
C'est une ligne de 800 km.
Et Bachar et M. Tebboune qui avaient dit que ça devrait rentrer dans le Guinness Book of Records. Et il a dit, nous avons tout fait, les Chinois nous ont donné un petit coup de main.
Ah oui,
c'est
drôle
dire,
de coup de main.
Ils ont collaboré avec nous.
Mais à la limite, ce n'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça. Mais une chose est certaine, en recoupant toutes les informations qui nous parviennent de Chine, sur notamment les sites web, en dehors des fake news, en dehors de tout ce qu'on peut avaler quand même, fausses informations, il ressort que les Chinois ont exigé qu'il y ait une ligne de transport pour pouvoir exploiter la mine de Garajbillet pour aller jusqu'au port d'Oran. Et si Tosiali est intéressé par des quantités de minerais de fer que les Chinois d'abord traiteraient par la suite. Mais sinon, c'est envoyé carrément sur le port d'Oran pour que le minerai soit traité en Chine, Quand je dis minerai, c'est un minerai
semi-vrai.
Parce que une grande partie de la gang va rester à Garage Billet, il faut que vous le sachiez.
D'accord.
Donc c'est une gang, c'est des déchets et qui vont contenir des dépôts de fer, des dépôts de métaux lourds et qui sont très polluants. Il faut le préciser.
Et comment faire pour s'en débarrasser?
C'est la très bonne question. Il faut une station de captage de toutes les poussières et aussi une station d'épuration des eaux de mine. Et ça, ça coûte très cher. Le problème qui se pose au niveau de Garage Billet, au niveau de Béchar, au niveau de d'Oran, il n'y a pas d'étude d'impact sur l'environnement qui est exigée par la loi sur l'environnement pour connaître les atteintes possibles sur l'environnement et sur la santé des populations. Et moi, en essayant de m'informer là-dessus, on me disait « Oui, mais tu sais, Béchar, c'est pas une ville très peuplée, donc l'étude d'impact n'est pas… »
Je dis, mais attendez. Puis le désert est juste à côté.
Quelque chose dans ce goût-là. Mais je disais, attendez, il y a une loi, il y a un décret d'application de cette loi, notamment les études d'impact sur l'environnement. Et puis, Béchar, c'est des gens comme vous et moi qui y habitent. Ils ont le droit d'être protégés aussi. Leur aquifère doit être protégé. Ils ont
les nappes.
Oui.
Les nappes d'eau potable.
Elles doivent être protégées également. Je ne comprends pas.
Il y a des possibilités d'infiltration?
Ah ben oui.
Vers les nappes
tout à fait,
phréatiques tout à fait. Et albiennes?
Une eau usée peut s'infiltrer jusqu'à 3500 mètres de profondeur. Et on a un exemple qui est celui de Ouargla, mais on n'a pas le temps d'en parler.
La remontée, l'Oued surtout, oui, la remontée des eaux qui a pollué toutes les nappes phréatiques.
Avec les sels.
Oui.
D'ailleurs, on en parlera pour la...
Il y a eu, moi je me rappelle, j'avais fait un reportage à l'époque, il y avait 1 million de palmiers morts.
Oui.
À l'époque, hein. Un million de palmiers. Et les fruits hautement pollués, la déglutinore entre autres.
Quand vous pensez qu'à un moment donné, même la ville de l'Oued était alimentée en eau usée.
Oui.
Donc, on peut en parler des semaines et des semaines, malheureusement.
Mais alors, sur ce minerai qui n'est pas très pur, qui n'est pas très commerciable par conséquent, qu'il faut traiter, dont les coûts de traitement coûtent très cher.
Après $25 la tonne.
Le traitement. Alors, en quoi ça consiste au juste des phosphorés?
Enlever le phosphore, donc c'est un traitement chimique, ce qu'on appelle par lixivation.
Oui.
Et c'est un traitement qui, effectivement, de prime abord est simple, mais en fait, la méthode est assez compliquée. Et jusqu'à présent, la déphosphoration qu'on connaît, celle qui est effectuée en laboratoire par les Chinois. Et qui, semble-t-il, aurait été testé par un laboratoire algérien, donc de mine et de géologie, je crois, du côté de Boumerdès.
D'accord.
Donc, c'est les informations que j'ai eues. Donc, je pense que les Chinois sont confiants que leur procédé va marcher, puisqu'ils se sont impliqués dans ce projet.
Et eux, ils vont faire tous leurs calculs, ils ne vont pas se jeter à l'eau comme ça.
Certainement.
Mais quel est l'investisseur, justement, principal qui va prendre en charge toutes ces prestations?
Ce sont les Chinois et les Turcs.
Et les Turcs. Et à quel taux d'investissement?
Ah, ça, c'est une très bonne question. C'est
49,
une très bonne
80,
question. On ne sait pas. En fait, normalement, oui. Si on doit se référer à la nouvelle loi sur les mines, et on pourra en dire un mot tout à l'heure, ce serait du 80-20. Le maximum de la participation algérienne, selon la nouvelle loi sur les mines, ne peut aller au-delà de 20%. Les gens se trompe en disant jusqu'à 80%. Non, 80%, c'est garanti. Et il peut y avoir des négociations selon les capacités des entreprises algériennes pour augmenter éventuellement ce taux de participation. Donc, il est tout à fait certain que les Chinois et les Turcs vont s'accaparer la part du lion. C'est le moins qu'on puisse dire.
Mais à la limite, on aurait compris qu'ils prennent un tel pourcentage, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire, d'investissements à consentir. Mais à la limite, et on ne sait rien encore du côté chinois. Si on sait du côté Tociali, on ne sait pas encore ce qu'il en est en matière de subvention de la partie...
Oui.
Mais à la limite, d'accord, qu'ils prennent, parce que c'est vraiment très difficile à exploiter, ils vont nous procurer des milliers, des dizaines de milliers d'emplois dans le c'est ce qu'ils disent.
Pourra en parler de ces emplois.
Mais arriver à les subventionner en plus de ce qu'ils vont prendre, je n'arrive pas à comprendre, très franchement.
C'est sûr qu'il y a le côté économique, comme vous le disiez si bien, les Chinois savent faire leurs calculs, mais il y a aussi le côté politique. À mon avis, moi, je n'aime pas trop m'impliquer dans des débats politiques, mais c'est une façon aussi d'obtenir le quitus des Chinois. Quand je dis le quitus, c'est pour le pouvoir. Donc, il y a toute une série de choses concordantes qui rendent ce projet très mystérieux. Moi, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas contre l'exploitation du minerai de Garajbillet, pour peu qu'il serve l'industrie algérienne. Oui. Or, ce n'est pas le cas. Ça va être, encore une fois, c'est pour ça que le docteur Djelloul Selama, à mon avis, a été embêté, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est parce qu'il a dit que c'était un projet rentier. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce minerai va aller ailleurs, va aller alimenter les industries étrangères.
Et aussi les barons du régime de se faire du beurre en passage.
Non, on y soit qui m'en y pense.
On y soit qui m'en y pense. Mais alors, sur le blending, d'abord pour qu'on puisse comprendre, le blending?
Alors là, je suis désolé, je n'aime pas utiliser de superlatif, mais je ne peux pas m'empêcher de dire que c'est une arnaque scientifique sans précédent. Il existe une équation très simple en matière de blending. Le blending se fait au niveau de la sidérurgie. On peut faire le blending d'un minerai de moindre qualité avec un minerai de haute qualité pour obtenir...
Tout blend mélangé.
Mélangé.
D'accord.
En fait, c'est un mélange, mais c'est un mélange savant. Il faut homogénéiser, il y a tout un procédé.
C'est une technologie très complexe.
N'est pas très complexe, mais c'est une technologie. Et du moins, c'est une technique.
D'accord.
À défaut d'être une technologie. Donc, il y a une équation très simple en matière de blending. C'est-à-dire, combien vous faut-il de tonnes de tel minerai à telle qualité pour obtenir et la mélanger avec un autre minerai d'une qualité supérieure pour obtenir une qualité moyenne. Or, le minerai de Garajbillet, on a dit, c'est dans la fourchette de 8 à 10%. Mais on fait les calculs sur les 8%. Il vous faudra, tel qu'on nous l'a montré à la télévision avec le Premier ministre, Monsieur Sifi, voilà.
Comment vous dites très bien, pas le prédicateur, l'imam.
L'imam.
Puisque lui parle.
Là aussi, il a fait fort.
Dieu qui nous a donné.
Il a fait fort, franchement. Mais je n'ai pas envie de commenter là-dessus. Oui. Et lorsque vous faites ce calcul, qui est très simple, c'est un calcul mathématique, c'est une équation. Vous ajoutez X, Y pour obtenir Z. Il vous faudra, en moyenne, tenez-vous bien, 97 tonnes de minerai de Garajbillet pour 3 tonnes du minerai qu'on importe, de bonne qualité, disons, pour avoir une qualité acceptable.
Ça veut dire un minerai qu'on importe.
Oui, il faudra mélanger pour avoir un minerai qui soit...
Pour le rendre commerciable, quoi, pouvoir le placer à la vente.
Oui, il faudra 97 tonnes de minerai de bonne qualité,
qui ne contient pas beaucoup de phosphore, entre autres.
Qui a un taux de phosphore entre
1%
à 1,5%, à 3 tonnes de minerai de Garajbillet. Vous vous rendez compte,
c'est
économiquement, ça n'a aucun sens.
Mais sans être expert...
C'est très simple. C'est des mathématiques de lycée. Hein.
Et c'est le minerai qui sert au blending, le minerai sain, le minerai bon, le minerai qui va rehausser la qualité, il est importé.
Oui.
C'est même pas qu'on peut le trouver chez
nous. Il faut l'importer. Tosiali importe aujourd'hui le minerai de fer, un minerai semi-brut lui aussi, qui est prêt à être enfourné, donc à aller dans les fourneaux. Et pour obtenir justement, un minerai de qualité acceptable, je le dis bien, je précise.
Ça veut dire pas très performant, juste acceptable.
Pour des aciers, par exemple, pour les rames de chemin de fer, etc. Mais sinon, le blending n'a aucun sens. Et de toute façon... d'une manière générale, il n'a aucun sens, et surtout économique.
Et il est pratiqué sens. Où, pour, à titre d'exemple ?
Pratiqué dans toutes les sidérurgies, même à Annaba. Mais c'est pour, vous allez blender par exemple un minerai qui est à 2% avec un minerai qui est à 0,5% pour obtenir une qualité
relative
pour des aciers qui soient donc acceptables dans telle ou telle utilisation. Mais c'est une pratique qui est faite pour effectivement obtenir des qualités qui sient au sidérurgiste. C'est tout. Mais ça n'a rien à voir avec Garage Billet.
Et toutes ces opérations, elles se passent à Garage Billet ou en
non,
dehors?
Non.
C'est dans si les autres terminaux. C'est
si vous avez importé du minerai de fer à partir du port d'Oran sur Oran,
c'est pas la peine de le transporter, évidemment.
Par contre, vous ramenez de. Mais moi, la question que je pose, qui me tracasse, c'est qu'on nous annonce que l'extraction du minerai de Garage Billet a commencé. Il y a eu, on nous a montré un chargement qui est parti devant le président, qui aurait été réceptionné justement par Tosi Ali. Mais quelles ont été les opérations d'extraction et de chargement depuis ? Parce qu'on nous parle de milliers et de milliers de tonnes. Et on sait très bien que cette histoire, je m'excuse du terme, cette fumisterie de blending, c'est juste de la poudre aux yeux. Un premier ministre qui dit je sais de quoi je parle parce que je suis du métier, je suis désolé, mais là, il devrait refaire ses classes. Qu'est-ce qu'on va faire de ce minerai ? Donc, quelque part, il n'y a pas de chargement. C'est juste une inauguration.
Pour l'inauguration, pour la galerie.
C'est évident.
Mais sinon, en cas de blending, ça veut dire, si j'ai bien compris, il faut prendre de Garage Billet, envoyer à Béchar. De Béchar, il y a un premier traitement par
Il n'y a pas de premier traitement à Béchar. Traitement, à l'heure où je vous parle, l'usine de Tosi Ali à Béchar n'existe pas. Elle est, semble-t-il, en construction. D'ailleurs, vous me faites rappeler quelque chose. Pourquoi ?
En tout cas, elle n'a pas été livrée.
Non.
Et c'est le motif.
Non.
Elle n'a pas été réceptionnée.
Non. Et la question que je pose, le président qui est allé inaugurer le départ du train à Béchar, oui. Pourquoi n'est-il pas allé inspecter l'état d'avancement des travaux de cette usine ?
Mais c'est pour ça que l'événement de l'inauguration de Garage Billet et de Béchar ont été annulés, soi-disant sous le prétexte de la tempête du siècle. Parce que les deux projets, terminal 1 qui se trouve à l'intérieur de Garage Billet et le terminal 2, un terminal industriel 2 qui est assuré par Tosi Ali,
oui.
N'ont pas été réceptionnés.
Non.
Et donc,
Tosi Ali, les travaux viennent d'être lancés en présence du Premier ministre.
Donc, ils ne peuvent pas les inaugurer.
Alors, je me demande où vont ces chargements.
Alors, question simple. Donc, s'ils doivent faire du blending, donc ça se passe à flux tendu entre Garage Billet, Béchar, Oran, du minerai qui arrive, et à flux tendu du minerai de bonne qualité qui arrive pour faire le mélange à Oran, pour ne pas le transporter en sens inverse.
Non.
Imaginable, ça
n'aura pas lieu. Parce que le blending en tant que tel, c'est pour ça que je vous ai donné comme, je dirais, comme raison inattaquable, c'est l'équation
oui,
de blending.
Oui. Il faut beaucoup pour parce que c'est
faut énormément
d'une qualité tellement.
Vous ne pouvez pas ramener 97 tonnes, en parlant de pourcentage, 97 tonnes d'un minerai de très bonne qualité ou de bonne qualité pour le mélanger à 3 tonnes qui viennent de Garage Billet.
C'est incroyable.
Alors qu'on parle de dizaines, de milliers
vous
de tonnes.
Vous êtes sûr de ce chiffre? 97 tonnes qu'il faut mélanger à 3 tonnes?
Monsieur Benchenouf, c'est une équation qui est peut-être résolue par un élève de 3e ou de 2e de lycée.
Évidemment.
Rien d'autre. Je crois que je vous ai donné même
mais c'est 97 tonnes qu'il blende, qu'il mélange à 3
tonnes.
Tonnes
de Garage Billet.
Garage Billet.
Alors qu'on nous parle de dizaines, voire de centaines de milliers de tonnes.
Ça veut dire qu'il va falloir importer tout le fer.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas croire qu'il y ait du minerai qui est extrait à Garage Billet et qui est envoyé. Mais où et pour faire quoi ? C'est la grosse question. Ils ne vont pas ramener du minerai et puis le stocker quelque part. Ça n'a pas de sens. Ce serait le garage billet. Donc, c'est la grosse question qui se pose, pourquoi cette inauguration? Pourquoi cette précipitation?
C'est pour assurer un projet de rente peut-être mafiocratique qui va permettre de prélever beaucoup d'argent.
Oui, mais même l'exportation vers le port d'Oran ne pourra se faire que le jour où les Chinois diront « Nous, on va traiter ce minerai en Chine ». Et c'est peut-être cela qui fait que, effectivement, d'abord, il y a eu cette ligne de chemin de fer où on dit, et là, c'est l'autre question que je pose, ça va être, ça va rompre l'isolement de la région, ça va permettre d'autres industries, tout. Où sont-elles ? Et l'isolement ? J'ai vu une vidéo très récemment de la gare de Tindouf qui était vide. Combien de gens vont voyager entre Tindouf et Béchar ? Et plus tard, plus loin, entre Béchar et Oran ? Combien ? Vous ne pouvez pas parler de... Moi, je ne suis pas contre la fin de l'isolement d'une région. Au contraire, surtout le Sud, il est le plus méritant de nous tous. Mais en même temps, il y a des données qui sont inattaquables. C'est le flux de voyageurs doit être... et on parle de 3, je crois, dessertes par jour. Je ne sais pas, il y a quelque chose...
Les retombées économiques sur la population, les retombées positives, est-ce qu'il pourra y en avoir? Mais aussi les retombées négatives, est-ce qu'il va y en avoir?
Oui, bien sûr.
À supposer qu'il pourrait y avoir une activité à peine moyenne.
Les retombées positives directes, c'est les emplois qu'on nous annonce. C'est les emplois, c'est quoi? C'est envoyer nos citoyens à aller extraire le minerai de fer de garage. C'est ça le destin de nos citoyens au 21e siècle. Je pose la question.
Surtout qu'avec les moyens technologiques d'aujourd'hui, ce n'est pas producteur d'emploi.
Des immenses nuages de poussière, de toutes les opérations qu'il faudra faire, de concassage, etc. Pourquoi ?
Répercussions sur la nature.
On nous dit qu'il n'y a rien. Comme on nous a toujours fait croire que le désert, c'est quelque chose où il n'y a pas de vie. Le désert est plein de vie. Nous le savons tous. Et surtout, lorsqu'on va commencer à faire vraiment du traitement de minerais, etc., il y aura des retombées, notamment sur la pollution des eaux. Il faudra, et c'est un élément fondamental, amener beaucoup d'eau pour ces industries. Et c'est la nappe de l'Albien. On nous parle de transferts d'eau qui vont coûter, je crois, un chiffre qu'on nous donne, c'est 1 milliard de dollars. Très bien, si on arrive à faire des adductions d'eau sur ces zones-là.
Sur l'Albien ?
Bien sûr. Tout ce dont nous allons parler, en tout cas, dans le Sud, c'est l'Albien. Et vous verrez, lorsqu'on parlera de Tel Hamza, c'est l'aquifère, le plus grand aquifère de la partie nord de l'Algérie qu'on va toucher. Ça aussi, c'est quelque chose dont il faudra en parler. Donc, on a beau dire, mais à un moment donné, si vous n'êtes pas maître de vos projets, si vous ne pouvez pas contrôler ces Chinois, ces Turcs, etc., comment allez-vous vous assurer que ces eaux-là vont être traitées, qu'elles ne vont pas être rejetées, en tout cas réintroduites dans le sous-sol ? Ce sont des questions qui, pour moi, sont lancinantes, franchement.
Mais justement, je ne résiste pas à la tentation de vous demander, même si je vais sembler un peu excessif, si tant est que c'est un système rentier, ça veut dire qu'il va servir à quelques-uns. Il va servir à calmer la population, à lui faire croire en des choses, à lui donner de l'espoir, sans plus. Mais il va, par contre, enrichir les requins qui sont tout autour, aux alentours. Et il va enrichir les barons du régime qui vont mettre la main à la pâte.
Ségolène Royal l'aura bien dit au MEDEF, allez-y vite.
Avant qu'il se réveille, avant qu'il n'y ait plus rien. Mise.
Moi, c'est comme ça que j'ai compris son message.
Oui, mais l'un dans l'autre, est-ce que, et là, vous parlez bien de cette ressource aquifère, qui est énorme. C'est une mer intérieure dont on dit qu'elle est l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande
du
monde.
C'est 6 000 milliards de mètres cubes.
Qui va des frontières libyennes
jusqu'à... C'est énorme, qui prend pratiquement une grande partie du Sahara. D'ailleurs, elle déborde en Libye, elle déborde un peu en Tunisie, et même un peu vers le Mali. Donc, mais la 70% des ressources d'eau sont algériennes.
Et pour exploiter un tel potentiel, j'imagine... Qu'il faut des gens compétents, qu'il faut des moyens, des études.
Toute une panoplie de mesures de protection. Et on n'a pas le droit de polluer cette nappe parce qu'elle est pour les générations futures. Vous voulez que je vous raconte une anecdote,
oui.
M. Belchenouf ? J'étais à un moment donné, j'ai fait une consultation avec un institut américain de stratégie globale. Et une partie était dévolue au climat. Donc c'est dans cet esprit-là que j'avais été recruté. Et donc j'étais à Washington, ils ont une bibliothèque énorme. Et donc j'ai trouvé un document confidentiel, notamment signé aussi par la CIA, et qui montrait des études faites par la NASA, d'ailleurs qui ont été confirmés par mon ami Nordin Melikchi, à qui je souhaite un rétablissement. Il disait ceci, tenez-vous bien, c'est une réserve d'eau douce stratégique pour les États-Unis.
C'est incroyable.
Et c'était il y a une dizaine d'années à peu près. Donc même les Américains...
Un trésor caché qui laisse de côté le temps... Pour le temps venu, pouvoir...
Réserve d'eau stratégique pour... D'eau douce stratégique pour les États-Unis. C'est un peu le Groenland.
Voilà. Ils ne vont pas manquer de mettre le grappin.
Quand j'ai entendu Trump dire le Groenland, il faut qu'on se l'accapare, j'ai tout de suite pensé à cette étude. Malheureusement, je n'ai pas eu le courage de prendre des photos parce que ce n'était pas possible, surtout qu'il y avait des caméras partout. Mais quand j'ai lu le document, j'en ai frémi. Mais c'est comme ça.
Alors, nous allons arriver bientôt à la fin de cette première partie. Mais avant, j'aimerais que vous nous disiez ce que sont vos appréhensions, si vous deviez résumer un peu tout ce que vous venez de nous dire. Et ce que sont vos appréhensions, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en 2-3 minutes ?
Mes appréhensions sont nombreuses, pour être tout à fait honnête avec vous, parce que ce que je vois aujourd'hui, c'est un pouvoir qui est aux abois et qui fait feu de tout bois pour brader les richesses du pays. Et l'un des meilleurs exemples qu'on peut avoir, c'est la nouvelle loi sur les mines. Je vous assure, lorsque j'ai commencé à la décortiquer, c'est des amis d'Alger qui m'ont dit « Écoute, il y a un projet sur les mines, est-ce que tu voudrais bien te pencher là-dessus ?» Donc, ça, il y a 3 ans de cela, j'ai alerté beaucoup de mes amis, on a fait même des émissions, même ici chez vous d'ailleurs, et aussi sur Alternative et tout, pour parler des dangers de cette nouvelle loi sur les mines. Donc on l'a appelé le bradage des richesses du sous-sol. Et j'ai essayé de la comparer à beaucoup de lois, même en Afrique. Je vous assure qu'il n'y en a pas son pareil, en matière d'abandon de souveraineté. Parce qu'on nous dit, non, ce sera un outil de souveraineté. C'est tout sauf ça. C'est un abandon de souveraineté. Donc, lorsque vous voyez les exemptions de taxes, lorsque vous en voyez... Même l'étude d'impact sur l'environnement, ils l'ont simplifiée au maximum possible. Ils appellent ça une notice d'étude d'impact, c'est-à-dire une feuille ou deux que le Wali va tamponner. Ce n'est même plus le ministre chargé de l'environnement, tel que le dit le décret sur les études d'impact. Donc c'est en contradiction même, non seulement avec la Constitution, puisqu'on parle de richesses stratégiques, elles sont stratégiques, eh bien voilà... La souveraineté, elle est complètement abandonnée. Et même d'un point de vue protection de l'environnement, on lui dit au ministère de l'Environnement, t'occupe pas, c'est le Wali qui sera en charge dorénavant. Vous vous rendez compte de ce qu'on nous dit ? Et vous verrez, lorsqu'on parlera de Tel Hamza, quels sont les dangers auxquels l'Algérie va faire face lorsqu'il s'agira, par exemple, d'industries extractives et autres.
Alors, justement, nous allons finir avec ce projet de Talha Hamza et nous laisserons pour la deuxième partie ce fameux serpent de mer qui est la plus grande ferme laitière du monde et la plus grande ferme de très loin devant la seconde. Oui. C'est pour dire que le monsieur Tebboune est capable de tous les prodiges, de tous les miracles. Alors, Talha Hamza, c'est quoi ?
Talha Hamza, c'est simple. D'abord, on commence avec un mensonge, qui est de dire que c'est une mine de plomb et de zinc, qui est la troisième mine au monde. Ce n'est pas vrai. Elle peut être classée entre 10 et 15 des plus grandes mines de plomb et de zinc, mais en aucun cas la troisième. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, les chiffres qu'on nous présente, on nous dit que c'était un projet stratégique. En aucun cas, il est stratégique. Et vous verrez que, d'abord, la première alerte, c'est faire appel à une entreprise australienne. Très vite, on se dit, les Australiens, c'est des grands spécialistes des mines, on sera entre de bonnes mains, etc. Mais quand j'ai commencé moi-même à m'intéresser à cette société australienne qui s'appelle Terramine, je me suis rendu compte qu'elle est pratiquement inconnue au bataillon. Et tiens. Je dois vous dire que j'ai des amis du ministère de l'Environnement australien, je les ai donc contactés, je leur ai dit, écoutez, c'est quoi Terramine ? Vous savez quelle a été leur réponse ? On dit, mais on ne comprend pas. De toutes les grandes compagnies minières australiennes, qui sont connues dans le monde entier, qui en tout cas, utilisent les technologies les plus avancées, vous êtes allé fourrer votre nez dans une compagnie qui est moribonde. Et je vais vous donner très vite un chiffre. L'action de Terramine, aujourd'hui, vaut 0,03 dollars. Vous vous rendez compte ? Et lorsque...
Un plan de comparaison avec une autre société, par exemple ?
Vous prenez, par exemple, société Gold Mining, par exemple, son action, elle dépasse les 500 dollars. Je ne sais pas si vous voyez...
Il n'y a pas de commune mesure,
non,
vraiment.
Pas du tout. Non, mais pire que ça... Je me suis intéressé au site web de Terramine, qui est bien fait. Vous savez,
il faut que vous
ayez un spécialiste de tous les sites web et tout, et vous aurez de belles photos, etc. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est l'interview d'un des responsables de cette société Terramine, qui disait, entre autres, qu'il n'a que ce projet réellement à mettre en avant. Ils ont un petit projet de mine, mais en coopération avec trois ou quatre autres compagnies australiennes. Ils sont là dans le management, je crois, mais ils sont plus. Mais ce qu'ils appellent le flagship en anglais, donc l'étendard, leur étendard, c'est Talha Hamza.
C'est l'aubaine, quoi. C'est...
L'aubaine. Je vous assure que c'est un mot qui est tellement. Qui colle tellement à la réalité que moi-même, j'ai du mal à l'utiliser. Et ce monsieur disait, avec beaucoup d'innocence, avec beaucoup de condescendance, que c'est une occasion extraordinaire pour Terramine, pour montrer qu'effectivement, elle pourrait exploiter une mine de telle ampleur, de plomb et de zinc, et surtout... obtenir des dividendes qui, d'un point de vue économique, va la renflouer. Le gars le dit. Et il dit des choses extraordinaires. J'ai senti qu'il pense que m'excuse du terme, mais c'est vraiment ça, que l'Algérie est une république bananière.
Une vache laitière.
Vraiment, on va venir avec nos gros sabots. Et vous verrez que ce n'est pas le cas, on en parlera tout à l'heure, qu'ils vont donc créer des emplois, mais c'est des emplois de mineurs. Là aussi, c'est tout ce que mérite un Algérien aujourd'hui, en 2026 ou 2027.
Et encore, avec la technologie, ce ne sera pas des masses de mineurs.
Oui, il ne faut pas croire que c'est...
C'est les mines du 19e siècle.
Non, là, justement. Mais justement
alors, surtout des techniciens, plutôt
tout à
que
fait.
De...
Oui, mais même les techniciens seront...
Très peu.
Seront soit chinois, soit australiens.
En plus, voilà.
Là, c'est moi qui vous le dis. Parce que, et au niveau de ce projet, la gestion totale est confiée à Terramine. C'est écrit dans le contrat. C'est quelque chose qui ne se... toutes les informations que je vous donne, je les ai obtenues du site web de Terramine. Et ils font les calculs de combien peut-être... c'est une mine qui a une durée de vie de 20 ans. Monsieur Benchenouf, je pose la question, qu'est-ce que c'est que 20 ans pour un pays?
Oui.
Qu'est-ce que c'est que 20 ans? C'est rien. Oui. Mais en faisant tous les calculs, donc je dirais le minerai lui-même, il faut dire que ce n'est pas comme le fer. Le minerai de plomb et de zinc, c'est à peu près entre maximum 10% du total de la masse extraite. Donc la gangue, c'est 90%. Donc si vous faites une extraction d'un million de tonnes...
C'est
1 million de tonnes, vous vous retrouvez avec 900 000 tonnes de déchets.
De déchets, donc 100 000 de minerais.
100 000 de minerais. Ouais. Et ça, dans le meilleur des cas possible. Mais
et où ils vont les déchets?
Ah, ça c'est une bonne question.
Oui, parce que ça vient à l'esprit.
Ben oui, c'est des bacs de stockage.
Une telle masse.
Un bac de stockage. Possiblement nous allons les réinjecter dans la mine.
Avec extraits.
Avec un ciment, on va les réinjecter.
C'est ce qu'ils en disent pour le gaz de schiste, pour les déchets. On va les réinjecter dans les fosses de pétrole vides.
Quelque chose d'inimaginable. Tout en oubliant que cette gangue est une gangue qui est polluée, parce qu'elle va contenir des résidus de plomb, de zinc. C'est quelque chose qui...
Et la réinjecte dans le sous-sol.
De la mine. Ça, une partie. Sinon, une autre partie sera dans des bacs de stockage.
C'est quoi un bac de stockage?
C'est des superficies où on va stocker les déchets, où on va essayer de les contenir pour éviter soit des infiltrations dans le sol, soit des infiltrations à travers...
Des ruissellements.
Les ruissellements, ouais. Voilà. Ce qu'on appelle d'ailleurs le lessivage. C'est pas normal. Mais le gros problème qui se pose, c'est que moi, ma première question, c'est par rapport à ma passion, l'environnement dans tout ça. Ah non, on a fait une étude d'impact sur l'environnement. Ah d'accord, très bien. Est-ce qu'on peut avoir le document? Non. On s'est procuré les conclusions de cette étude par effraction, croyez-moi. Au niveau de la wilaya de
Djer. Et qu'est-ce que ça dit?
Ça dit, en quelques phrases, que les dégâts sur l'environnement sont anecdotiques, tenez-vous bien, pour une mine.
Trois fois rien.
Pour une mine, ouais. Sont anecdotiques et que toutes les mesures seront prises par l'exploitant. Ils ne disent même pas qui est l'exploitant, qui devrait être, Terramine.
Bon. Oui.
Terramine avec deux compagnies algériennes et ce qui donne cette joint venture. En parlant de joint venture, il y a eu un prêt qui a été accordé par les banques algériennes parce que dès qu'il y a cette joint venture qui a une des compagnies algériennes, le partenariat peut demander des prêts des banques algériennes. Et il y a eu un prêt de 330 millions de dollars. C'est Terramine qui le dit, hein, c'est pas moi.
C'est incroyable.
Et qu'on va, rembourser sur pratiquement la moitié de la durée de vie de la mine, c'est-à-dire une dizaine d'années. Je n'injecte rien comme argent. Vous allez me prêter cet argent. Je vais exploiter. Est-ce que je vais gagner une partie? Je le rembourse.
Et je rembourse à la tire-boulette.
Là.
Mais c'est incroyable, ça. C'est de la combinaison primaire.
J'invite tous ceux qui sont intéressés d'aller sur le site web de Terramine. Et vous verrez, ils donnent des calculs aussi qui sont très parlants. D'abord, le prix donc à la tonne du plomb et du zinc. Et ce qui fait que vous allez faire les calculs entre ce qu'ils vont extraire, parce qu'il y aura une unité de concassage au niveau même de la mine qui sera construite par les Chinois. Et d'ailleurs, le prêt a été octroyé aux Chinois pour qu'ils construisent les installations d'exploitation de la mine. Et il y aura donc une unité de concassage pour dégager le plomb et le zinc de cette fameuse gangue. Donc on va se retrouver avec
une montagne de déchets
qui sera ingérable. Donc et ça va polluer la nappe phréatique de la vallée de la Soummam. C'est le plus grand tâche.
Et on rappelle que ça se situe à 15 kilomètres de Bougie.
De Bougie.
C'est proprement un crime.
Lorsque vous prenez une photo par satellite,
oui.
on a produit une vidéo là-dessus. J'aurai l'honneur de vous la transmettre. Vous verrez tous les cours d'eau qui sont autour de Tel Hamza. Donc c'est pollution des eaux de surface et pollution des eaux du sous-sol. Et ça, je n'arrive pas à le concevoir.
Nous allons arrêter ici, et j'espère que nous pourrons y revenir, parce que nous arrivons à la fin de cette première partie. Donc, dans la deuxième partie, nous allons pouvoir des parties qui seront diffusées un jour après l'autre. Nous allons parler du fameux grand projet, le projet pharaonique, n'est-ce pas, de M. Tebboune, qui est la plus grande ferme laitière du monde.
I'm gonna make you mine.